Un épisode qui va nous expliquer la séparation entre Lot et Abraham. Alors c'est relié à la promesse. Alors on va prendre comme postulat de lecture. Quand Abraham sort d'Ur-Kasdim, en fin de compte, il dépasse Haran. Il n'est pas resté avec les sionistes de la Gola là-bas. Hein. C'est une blague, c'est pas tellement une blague. C'est le premier sioniste de l'histoire, ça a été Terach, le père d'Abraham. Hein. Mais c'est Abraham qui a fait ça à lire. Et je reviens au problème. Terach était le président de la fédération sioniste de Haran. Alors, on revient à notre problème. Et là, Lot est encore concerné par les promesses à Abraham. Voilà la première chose que vous devez noter. Claire ? Ça, vous l'avez dans le chapitre 12. Lot fait partie de l'identité Abraham et il est encore concerné par les promesses à Abraham. Et puis voilà ce qui se passe au chapitre 13. Alors prenez le chapitre 13. Depuis le premier verset. Alors ce que je vous ai rappelé, c'est uniquement brièvement ce qui s'est passé au chapitre 12. Quand Abraham et Lot sont arrivés dans le pays, ils ont fait un voyage en Égypte. Bon. Et après ce voyage en Égypte, le chapitre 13 reprend l'histoire des promesses. Vayar al Abraham im Mitzrayim. Et Abraham monta d'Égypte, chapitre 13, Yud Gimel. Je commence quand tout le monde a un livre sous les yeux. Vous y êtes ? Bon. Alors, et Abraham monta d'Égypte, Hu ve Ishto, lui et sa femme, Vechol Asher Lo, et tous ceux qui lui appartenaient, Ve Lot Imo, et Lot avec lui, mais le texte précise, et Lot avec lui, Lot est encore concerné par toutes ces promesses. Anegba, en direction du Negev. Ils reviennent d'Égypte, ils vont vers Beersheba. Ve Abraham kaved meod. Et Abraham, littéralement, était très lourd, très riche, ba mikne, en troupeau, ba kesser ou bazahav, en or et en argent et en or. Ba yeler le masahav, et il alla, selon les étapes, selon ses étapes. Quelqu'un peut suivre en même temps sur le texte français pour me dire comment on traduit ?
Ses pérégrinations.
Attendez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Et vous allez voir qu'aucun détail du texte n'est inutile. Bien sûr que pour faire un voyage, on va d'étape en étape. Alors qu'est-ce que ça nous ajoute ? Le Midrash intervient pour dire qu'on apprend ici une grande règle de moralité, de convivialité morale, comment dire, de morale en société. Lorsqu'il était descendu en Égypte, il est allé d'étape en étape et il a été reçu en hospitalité dans les différents endroits. Lorsqu'il revient, il avait le devoir de s'arrêter là où il a été reçu pour rendre la visite d'hospitalité. Donc, il est remis à Sahara, ça veut dire qu'il alla selon ses étapes, les étapes par lesquelles il était descendu. C'est clair ? C'est une grande règle. On revient toujours d'où on était parti. Et Minegev et Bethel, depuis le Negev jusqu'à Bethel, tu lis sur le texte, Alamakom Asherayasha Maolo, jusqu'à l'endroit où était là-bas, était déjà sa tante, Batechila au début.
Excusez-moi, j'ai une autre question. Ils disent que au retour, c'est à qui les dettes qui avaient contracté dans la vie.
Plus fort.
Au retour, c'est à qui les dettes qui avaient contracté.
Oui, ça va dans l'explication que je t'ai donnée. Quel midrash tu lis là ? C'est la voie de la Torah ou Rashi ?
C'est Rashi.
Oui, ben c'est ce midrash que je sais. Mais c'est des dettes d'hospitalité. Mais il y a le mot de dette, montre-moi ça. C'est quel verset ? 3. C'est la même explication. C'est d'elle de suite. Alors, la fin du verset 3, il revient jusqu'à l'endroit où il avait planté sa tente au départ. Okay. Ben Bethel ou Ben Arai, entre Bethel et Arai. Quand on connaîtrait mieux la géographie du pays, vous savez, c'est pas très loin d'ici, il y a actuellement un moshav là-bas. Et le Mekom Arisbeh à Sacham Barishona, à l'endroit de l'hôtel qu'il avait érigé là-bas au début, Vaikrasham Abraham Beshem Hashem. Et Abraham invoqua là-bas le nom de Hachem. Alors, on a verset 5. « Vegam lelot a oler et Abraham. » Et à Lot aussi, et même à Lot qui allait avec Abraham, « Haya tzon ubakar veohalim. » Il y avait des troupeaux et des tentes. « Tzon » c'est le petit troupeau, et « bakar » c'est le gros troupeau. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les ovins et les bovins. Le menu bétail et le gros bétail. Là, vous avez un verset très important. Et la terre ne les portait pas pour résider ensemble. Je reprends. En d'autres termes, la terre n'était pas assez grande pour qu'ils habitent ensemble. On rattache ça tout de suite à l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn et Abel étaient deux hommes seuls sur toute la terre. Et la terre n'était pas suffisamment grande pour qu'ils puissent cohabiter. La coexistence pacifique. Okay. Alors regardez comment le verset reprend le problème entre Abraham et Lot. La terre n'était pas assez grande pour qu'ils s'installent ensemble, deux frères. Un c'est l'oncle, l'autre c'est le neveu, mais nous allons voir qu'ils sont comme des frères, au début. Alors ça veut dire qu'on est averti, un problème analogue à celui de Caïn et de Abel. La relation avec autrui, elle est difficile entre eux. Il va y avoir, je vous en la réponds tout de suite, un grand progrès. Caïn et Abel, Caïn a tué Abel. Ici, Abraham va décider, puisque nous sommes frères, on se sépare. Rendez-vous à la fin des temps. Cette fin des temps commence avec Ruth, qui descend de Lot. Bien. Parce que s'ils restent ensemble, il va y avoir une querelle. Elle va arriver tout de suite, d'ailleurs. Donc, il y a une stratégie pour résoudre le problème Caïn et Abel. Il faut se séparer si on s'entend pas.
Comme Joseph vient chez Abel aussi, il ne va pas quitter.
Jacob.
Il
n'y a pas de avec Esaü. Oui, et la même chose, rendez-vous à la fin des temps. Et là-bas, il lui dit clairement, okay. Et on est à cette fin des temps de rendez-vous avec Rome. Donc,
pourquoi
en tout cas, puisque Ruth va dévoiler pourquoi Abraham protège tellement Lot, comme on va voir plus en détail. Ça veut dire, Abraham sait par inspiration. Prenons-y comme postulat. En tout cas, le texte le sait. Qu'il y a en Lot des étincelles de sainteté cachées, enfouies. Il faut les protéger. Parce qu'on pourrait se demander, mais puisque Lot s'est disqualifié, pourquoi Abraham le protège tellement ? Il va à son secours, il fait la guerre pour le sauver. Vous avez lu la suite du texte. Alors, regardez ce principe. Il y a dans cette idée de Lot quelque chose d'important, mais qui est dégradé. Alors, il faut le sauver. En fin de compte, de la descendance de Lot sortira Ruth. Alors, ça c'est la vision que j'ai faite tout à l'heure rapidement. Abraham dit à Lot, on se sépare, et vous aurez plus de détails immédiatement. Et c'est moi qui ai ajouté rendez-vous à la fin des temps, et ce rendez-vous a commencé avec Ruth. Okay. Bon, c'est plus clair. J'ajoute un principe, en anticipant un peu sur la suite. Lorsque l'échec est l'échec et l'échec de celui qui était le plus proche de la vérité, d'une part, ce qu'on a souvent vu, son échec est le plus grave. Rappelez-vous de ces deux termes en français. Proximité, ça c'est positif, mais approximation, c'est négatif. Alors, plus quelque chose est proche, plus c'est dangereux, parce que l'approximation est la plus trompeuse. C'est clair ? Quand le mal se déclare à vous avec son visage de mal, il n'est pas dangereux. On sait qui il est. Quand il se déguise, qu'il se présente à vous avec un visage de bien déguisé, c'est là qu'il est dangereux. C'est clair ? Je ne sais pas quel philosophe a dit en français, le propre de l'erreur, c'est de se faire passer pour la vérité. Okay. Est-ce que c'est clair ? Quand un mensonge est un mensonge, c'est pas dangereux. On joue carte sur table, si j'ose dire. Mais quand ça se mélange une demi-vérité, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que ça ressemble, mais ça fait que ressembler. Alors, plus ça ressemble, plus c'est dangereux. C'est clair jusque-là ? Ça, c'est le premier principe. Ça va ? Retenez bien ça. Mais ceci dit, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui aurait pu réussir, et ce quelque chose qui aurait pu réussir, il faut le protéger. Ça va jusque-là ? C'est clair ? Bon. Alors, on continue. Verset 6, la terre n'était pas assez grande pour les deux. Verset 7, Vayhi ri. Il y eut une querelle, Ben Roé Mikne Abraham, entre les bergers des troupeaux d'Abraham ou ben roé mikne lot, et les bergers des troupeaux de Lot. C'est-à-dire, qui a pris l'initiative de la querelle, d'après le texte? Elle est bien Lot. Les bergers d'Abraham. Les bergers d'Abraham ont querellé les bergers de Lot. Et le Cananéen et le Périsien, c'était des peuplades des Cananéens, étaient alors dans le pays. Ça veut dire, le pays était occupé par des occupants, les Cananéens, les Périséens, et les bergers d'Abraham ont querellé les bergers de Lot. Le Midrash, le Sitrachi, nous restitue ce qui s'est passé. Et rappelez-moi, je vous donne une référence dans l'histoire de Moïse à ce propos. Ça veut dire, jusqu'à présent, nous avons deux personnages qui se ressemblent beaucoup, Abraham et Lot. C'est avec eux que pour la première fois depuis le meurtre d'Abel par Caïn, que le mot de frère va être employé par le texte. Il pouvait y avoir une relation de fraternité entre les deux, plus que ça. Chacun d'entre eux, Abraham pour sa part, Lot pour sa part, est capable d'être frère. Mais il y a une grande différence de nature entre les deux. C'est que la capacité de fraternité d'Abraham tient compte de la moralité, alors que celle de Lot ne tient pas compte de la moralité. Si vous voulez, je vais employer une formule un peu concise, mais c'est bien de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a une identité de l'être frère, et il y a une identité du faux frère, c'est-à-dire de comportement humain qui mime formellement le comportement de fraternité, mais qui ne sont pas authentiques parce que c'est en dehors de la moralité. Je vous donne rien que des exemples d'analyse. Vous avez des mouvements politiques qui ont pour objectif la fraternité humaine. Et ça se solde par des millions de victimes. Ça veut dire que la capacité de fraternité au niveau de l'objectif est indéniable. Et finalement, ça se traduit dans le langage. Frère, frère, mon frère, ma soeur, bon, les frères, camarades. Et puis, ça se traduit par l'assassinat systématique du frère. Vous voyez, il y a Abraham et Lot. Si Abraham est le frère, Lot va se dévoiler comme étant le faux frère. Et je reviens, c'est important, une espèce de capacité formelle de fraternité. On les appelle les bergers, le peuple des bergers. Vous remarquerez bien cela, que dans toute la Bible, dans tout le Tanakh, on cherche qui est capable d'être berger. Vous avez dû remarquer cela. Thème de la recherche du berger. C'est par lui que passera l'alliance. Qui c'est le berger? Le premier berger de l'histoire, c'était Abel. Vous vous rappelez que ça veut dire berger déjà à l'époque, celui qui s'occupe de l'autre. C'est clair? Et dans les évangiles, on cherche les pêcheurs. Mais dans la Bible, on cherche le berger. Non, ce thème a son importance. Pêcheur d'âme. Et Lot a cette vocation du frère, comme Abraham. Mais il va y avoir une grande différence qui apparaît. Abraham, c'est dans la moralité, alors que Lot, c'est en dehors de la moralité. Où va-t-il jouer son rôle de berger, son rôle de frère? En fin de compte, il choisira quoi? Sodome et Gomorrhe, Pompéi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va y revenir. Alors, le Midrash que cite Rashi nous indique tout de suite quel était l'objet de la querelle. Qu'est-ce que peut être l'objet d'une querelle entre bergers? Réfléchissez bien. Tiens, tu vas nous donner les raisonnements talmudiques. Qu'est-ce que peut être l'objet d'une querelle entre bergers? C'est le fait de savoir à qui appartient le champ sur lequel les troupeaux vont paître. Alors, les bergers d'Abraham querellaient les bergers de Lot parce que les bergers de Lot allaient faire paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Voilà. Tout de suite, la différence, c'est la moralité. C'est clair? Ils sont bergers, mais ils mourront. Clair? Bon. Et c'est pourquoi le texte, dit le Midrash, nous dit, et à l'époque, le Cananéen, le Périséen était là. Alors, regardez jusqu'où va la mauvaise foi des bergers de Lot dans le Midrash. Il faisait le raisonnement suivant. Toute cette terre est promise à Abraham, donc à Lot, alors elle nous appartient. On peut la prendre. Remarquez les problèmes que l'Israël contemporain a avec la terre d'Israël. C'est à lui. Mais il doit l'acheter à prix d'or. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le Cananéen et le Périséen sont là. Alors, il faut quand même l'acheter. Vous avez entendu parler du KKL? C'est l'inouï. On n'a jamais vu ça. Un peuple acheter sa terre. Donc, c'est un autre problème. Alors que les bergers de Lot, eux, expropriaient les Cananéens de façon immorale. Vous voyez jusqu'où ça va. Et remarquez à quel point la Knesset, c'est les descendants d'Abraham. Jamais on fera passer une loi au Parlement israélien qui est que ben, les Arabes, on les expulse et on prend leur terre. C'est pas possible. On est descendants d'Abraham. Et pourtant, c'est la terre des descendants d'Abraham. Mais c'est comme ça. Mais la différence entre Lot et... Vous savez, c'est clair. Et c'est pas l'envie qui manque. Mais il y a quelque chose qui empêche. Et le monde entier reste bouche bée, le KKL. Sous par sous, on a acheté cette terre. Racheté. Vous avez compris le problème.
On achète... Le KKL on achète toutes les terres.
Et le sol appartient au KKL. Et il est loué à ceux qui les achètent pour 90 ans. Mais c'est loué. Le sol appartient au peuple d'Israël, ça appartient à aucun individu. D'ailleurs, vous apprendrez que, instinctivement, la Knesset, le Parlement, a retrouvé l'esprit des lois de la Torah. Il y a une loi qui est que quelqu'un qui achète un appartement possède une parcelle du sol sur laquelle la maison est construite. Mais c'est un achat, ça s'appelle en réalité, enfin, ce qu'on appelle un achat est en réalité une concession de 90 ans du KKL. Okay.
Pour...
Hein? 99 ans, c'est ça. Non, ça veut dire, c'est à toi. Mais ne te fais pas d'illusions. Cette terre appartient au peuple d'Israël.
Là. Mais pour le problème de succession.
Non, ça veut dire, c'est à toi, bien sûr, etc. Mais voilà comment se fait le contrat d'achat. C'est clair. Tu vas me reposer ta question, mais je voudrais terminer. Je veux dire que la... ça m'a échappé. Il y a une loi dans la Gemara. C'est que la première chose qu'un juif doit faire en arrivant en Eretz Israël, il doit acheter un carré de terre pour être enterré dedans. Moins ça sert à lui. Bon, vous avez plusieurs possibilités. Il y a des offres avec Merpesset, téléphone.
Je
n'ai
pas trop
très
compris la parenthèse
du Cananéen,
du Phéréséen.
Eh bien,
c'est ce que
tu
as entendu.
Oui.
Est-ce que c'est.
C'est ça.
Pour savoir s'il fallait acheter ou...
Non, c'est pas ça. J'ai peut-être pas suffisamment expliqué. Le raisonnement des bergers de l'autre consistait à dire, bien que le Cananéen et le Périséen occupent le pays, puisque ce pays appartient à Abraham, il nous appartient à nous aussi, donc les champs, c'est à nous. Alors que les bergers d'Abraham s'opposaient, non, ça t'appartient pas encore. Oui, c'est clair. Alors, c'est important de voir que la querelle des bergers va porter sur une question qui se relie d'autre part à la promesse de la terre. Et c'est parce que, quelle est la question du Midrash? Qu'est-ce que vient faire? Et le Cananéen, le Périséen étaient alors dans le pays. Okay? Alors, lisez Rachid, je pense que Rachid cite ce Midrash.
Et
les bergers de Lot n'étaient pas honnêtes et conduisaient leurs bêtes dans les champs d'autrui. Les bergers d'Abraham leur disaient que c'était du vol. Ceux de Lot répliquaient, tout ce pays a été donné à Abraham, qui n'a pas d'héritier. Lot est son héritier, ce n'est donc pas du vol. Or, la Torah dit, le Cananéen et le Phéréziens habitaient alors le pays.
Voilà. C'est clair?
Abraham n'y avait donc pas encore droit à ce moment.
C'est cela. C'était encore promesse, c'était pas encore le temps de l'héritage. Le temps de l'héritage viendra à la sortie d'Égypte. Quand la descendance d'Abraham sera une nation à la sortie d'Égypte, alors c'est le temps d'hériter de la terre. Le temps des patriarches, les 6 générations d'Abraham à Moïse, les Hébreux étaient porteurs d'une promesse qui concernait une descendance. Lorsque cette descendance se constituera en nation, la promesse de l'héritage de la terre prendra acte. C'est clair? Bon.
Okay. Il y a plus que ce d'Abraham, parce qu'en fait, il est lié à Abraham.
Plus que ça. Il est capable d'être frère de n'importe qui. Okay? Il est capable de fraternité. Mais finalement, il choisit d'être frère de gens immoraux, les gens de Sodome et de Gomorrhe. Bon, c'est moi qui ai employé l'expression « faux frère ». Vous verrez, je vous citerai une expression de Lévinas qui me revient en mémoire. Vous verrez, tout ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham se passe aussi dans l'histoire de Lot, mais en caricature. L'hospitalité d'Abraham, c'est dans la pureté. L'hospitalité de Lot, c'est dans l'impureté. Et Lévinas disait un jour, je crois qu'il disait ça sous forme de blague, quoiqu'il ne sait pas quelqu'un à blaguer, il disait, si Abraham c'est le juif, Lot c'est le seul juif. C'est pas plus compliqué. Oui, c'est l'autre. Bon. Et là, il y a une idée importante sur laquelle vous devez identifier par vous-même. Cette capacité d'idéal de la fraternité. Mais concrètement, halakha le ma'aseh, c'est une immoralité absolue. Et c'est innombrable les mouvements qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité où on prétend installer la fraternité et ce qu'on installe, c'est l'esclavage, le massacre, le goulag. Ça va jusque-là ? Vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Et si vous relisez l'histoire de l'humanité, à travers ce principe, on a des surprises. Ça veut dire les mouvements de fraternité apparemment les plus idéaux ou idéalistes ont mené à toutes les inquisitions possibles et imaginables. Quelque chose qui ne tombe pas rond là-dedans. Alors ça, c'est la manière de Lot d'être frère, en mettant entre parenthèses la moralité. C'est une idée importante que je vous demande vraiment d'intégrer. Okay ? Ça va jusque-là ? Et ce qu'on va essayer de comprendre maintenant en deuxième point, c'est comment comprendre qu'Abraham, qui sait cela, va quand même garder une amitié pour l'autre qui frise à la complaisance. Okay. Simplement, j'anticipe un peu par une sorte de coup de projecteur. C'est un peu la grande déception que le peuple juif contemporain a vis-à-vis de la révolution marxiste. Et pourtant, il y a une espèce de complaisance qui reste jusqu'au bout. Vous voyez à peu près cela ? Comme si on diagnostique que c'est quelque chose qui ressemble à l'autre. À l'autre. Par exemple, vous avez cette ferveur des juifs socialistes en France. Bon, il suffirait qu'ils aillent vivre quelque temps en Russie pour que ça leur passe. Mais ils le savent très bien. C'est l'autre. Mais c'est pas n'importe qui par rapport à Abraham. Une espèce de complaisance. Ça va jusque-là ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Moi, j'ai pas suivi votre démonstration concernant la fin du commentaire.
Bon, je la reprends.
Abraham n'avait pas droit à la terre.
C'est votre traduction qui dit ça comme ça. Hein. C'est une paraphrase. Voilà de quoi il s'agit. On a un verset qui nous parle de la querelle des bergers d'Abraham contre les bergers de Lot. Vous vous rappelez de l'ordre de la querelle. Hein. Et alors, je vais poser une première question. Quel peut être l'objet d'une querelle de bergers ? Ce qui se passe sur le champ. Bon. Or, la fin du verset nous dit quelque chose d'apparemment qui n'a rien à voir avec le sujet. Et le Cananéen, le Périséen était... à l'époque, habiter le pays. Okay. Ça n'a aucun rapport. Donc, c'est que ça en a un de rapport. Quel est le rapport ? Le Midrash l'explique. Abraham avait reçu la promesse de la terre. Les bergers de Lot disaient c'est à Abraham, donc c'est à Lot. Alors, c'est à nous. Okay. Alors, les bergers d'Abraham répondaient non, pas encore. Le temps n'est pas encore venu de l'accomplissement de la promesse de la terre. Le Cananéen et le Périséen habitent encore dans le pays. Tu veux un berger du Canaan, un champ du Cananéen, achète le KKL. Okay. Mais la différence. Ça y est.
Et quand vous avez entendu ça à la sortie d'Égypte ?
À la sortie d'Égypte, c'est le temps où la nation d'Israël doit hériter de la promesse qui lui a été faite. Et vous apprendrez ça dans le livre de Josué, mais je vous en parlerai déjà au début de la sortie d'Égypte. Il y a un certain nombre de conditions, de propositions de paix aux habitants du pays qui sont faites. S'ils refusent, alors c'est la guerre. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et c'est bien clair. Pourquoi je vous ai cité tout ça ? Pour notre sujet à nous, c'est que l'identité Lot et l'identité Abraham vont se séparer parce que, malgré l'analogie de capacité de fraternité, berger-berger, okay, d'un côté il y a la moralité, de l'autre il n'y a pas la moralité. Et là, vous découvrez un principe qui va nous accompagner jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin, de toute l'étude de la Torah. Ça passe par la moralité. Si ça ne passe pas par la moralité, c'est disqualifié. C'est clair ? C'est le grand chidouche de la Torah. Je veux dire, l'intuition fondamentale du génie de la conscience hébraïque. Il y a une seule lecture possible de la Bible, c'est la lecture à travers le principe de moralité. Toutes les autres lectures sont inauthentiques. C'est clair jusque-là ? Bon.
On peut en dire une condamnation formelle des thèses de Meir Kahn.
Pas complètement. On n'a même pas besoin de ça. Là, c'est un autre problème. Ne serait-ce que du point de vue de la stratégie verbale. C'est évident. D'ailleurs, Kahana ne dit pas ça. Kahana est prêt à les dédommager. Avec quel argent, je ne sais pas. Ce qu'il leur dit, c'est allez-vous-en, vous payez. Alors que la politique israélienne générale, c'est d'attendre que ce soit possible d'acheter, de faire ça en douceur. Okay? Tandis qu'on a dit, on en a marre, allez-vous-en, on vous donne tant d'argent, tant de terre, exproprié. Même quand on n'en fait pas ça. Bien, alors on revient au problème.
Abraham, il s'est
pas... Là, je vais vous raconter une histoire. Il y a 15 ans, j'étais reçu par le maire de, à ce propos, par le maire de Natania, le maire de l'époque, qui s'appelait Benami. Et c'était lui qui avait été chargé depuis le début du siècle. Maintenant, il n'est plus, mais enfin, il était déjà âgé à l'époque. Il nous a fait une grande réception, le premier Français qui arrivait dans le pays. Et alors, il nous a raconté, c'était lui qui était chargé par le KKL d'acheter toute la côte depuis Khedera jusqu'à Ashkelon. Et à l'époque, c'était rien que du sable. Et il s'était fait ami avec tous les chefs arabes qui habitaient là. Et puis, vous savez, la cérémonie du marchandage et tout ça, il a acheté dunam par dunam toute la côte pour le KKL. Alors un jour, il a dit à un cheikh qui était son ami, il dit, écoute, tu sais très bien que c'est du sable et que ça ne vaut pas le prix que tu me demandes. Pourquoi tu me demandes si cher? Il dit, on sait bien que c'est à vous, cette terre. Seulement, vous allez payer le gardiennage pendant 2000 ans, on était là à votre place. Vous payez. Voilà, il faut bien comprendre ça. Après tout, si j'ose dire, ils n'ont pas droit à la terre, ce n'est pas la leur, mais ils ont droit à un dédommagement. Ça compense les juifs qui achetaient des villas partout dans le monde entier, mais jamais en Israël pendant 2000 ans. Amsterdam, Salonique, tout ce que vous voudrez. New York a été fondée par des juifs, vous savez, par des juifs d'Amsterdam. Le premier nom de New York, c'était la New Amsterdam. Okay. Et puis, Eretz Israël, Jacob chez là-bas, j'ai les troupeaux de Rachel. Okay. Alors, les Arabes ont dit à Benami, dit oui, on sait, mais tu payes le gardiennage. Okay. Donc, c'est pourquoi, avec le temps, ça devient de plus en plus difficile. Bien. Qu'est-ce que vous voulez demander,
Abraham, il s'appelait Abraham. Quand il a été circoncis.
Un peu plus loin dans le texte. Pour le moment, c'est encore Abraham. Okay.
S'il vous plaît.
Oui.
Vous avez dit tout à l'heure, Sarah a perdu confiance en elle-même.
Je n'ai pas dit ça comme ça.
Elle a besoin d'avoir un enfant.
Je ne me permets pas de dire de ma mère Sarah qu'elle a perdu confiance. J'étais
en
beaucoup
tout cas,
plus...
elle a laissé le soin à Agathe.
Agathe a une minute. J'étais beaucoup plus, comment on dit...
Réfléchissement de la confiance.
Voilà.
Agar a donc eu un enfant d'Ismaël.
Oui.
Et vous avez dit aussi, peut-être pas dans ces termes, nous en payons encore le prix aujourd'hui.
Dans ces termes.
Alors, si nous payons le prix aujourd'hui, c'est que nous payons l'erreur de Sarah.
Absolument. Et non. Très bien. Péché originel, jamais de la vie. Oui. Non. Nous payons notre propre erreur. Pourquoi ça nous est difficile pour nous aujourd'hui? Parce qu'on recommence le même comportement. Qu'est-ce qui renforce la conviction des Arabes que cette terre, c'est eux? C'est le doute des Juifs que peut-être c'est pas eux? C'est bien clair. J'ai répondu à ta question. C'est quand les descendants refont la même faute qu'ils ont payé pour. Il n'y a rien de fatal. Seulement, il n'y a pas de doute, ça met en évidence une constante de, qu'on étudiera. On verra pourquoi, en tant que descendants d'Abraham, nous sommes si faibles vis-à-vis d'Ismaël. Abraham a un faible pour Ismaël. Okay, ça, on verra un autre jour. Mais il faut prendre acte de cela. Venez, je veux dire, une des formules de la propagande anti-israélienne la plus forte, c'est le nombre des juifs qui sont à l'étranger. Vous dites que c'est à vous, c'est pas vrai. La preuve, vous préférez Chicago. Un point. C'est clair? Vous comprenez? Alors, chaque fois qu'il y a un juif de moins dans le pays, il y a 10 arabes de plus. Ça vient d'Ishmaël. C'est clair?
Je comprends pas.
Voilà. Et peut-être on est allé un peu trop vite. Tu te rappelles de la question qui a été posée? Ça veut dire que Sarah a eu un fléchissement de la confiance. Bon, et puis il en est né Ishmaël. Alors ça veut dire que nous qui payons les pots cassés, on paye la faute de Sarah. Pas du tout. C'est-à-dire quand nous refaisons le même comportement, douter de soi, alors la même sanction. C'est clair. Et ce que je voulais vous dire, peut-être un peu rapidement, c'est le cas aujourd'hui. Une énorme partie du peuple juif a des doutes. Est-ce que vraiment cette terre m'appartient, ou peut-être ça appartient à Ishmaël? En schématisant, c'est bien le dossier que nous avons appelé, c'est bien clair. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Donc, alors, ce que j'ai ajouté, c'est important, D'autre part, concrètement, parce que c'est dit en clair dans le texte, c'est ou l'un ou l'autre. Et l'autre, c'est très bien que c'est ou l'un ou l'autre. Et concrètement, ça se traduit comme ça. Un juif de moins dans le pays, c'est 10 arabes de plus. C'est évident. Vous comprenez ? Vous voyez, ce vertige d'avoir peur de regarder la réalité en face. C'est ça qui caractérise les juifs. Bien. On a, c'est dans le sujet ?
La personne à qui l'interlocuteur du
nord
de l'Italie, qui était musulman, vous connaissez alors la promesse ?
Ah oui, les musulmans savent que cette terre, c'est la terre d'Israël, mais ils doutent qu'Israël soit Israël. En d'autres termes, je paraphrase, faites la preuve que vous êtes ces hommes à qui la promesse a été faite, et c'est un... En attendant, si c'est pas vous, c'est nous. Et ça, c'est écrit aussi.
On doit un certain respect aux Arabes, puisque c'est aussi
les fils d'Abraham. D'Abraham. Okay. Et ça, on va étudier quand on arrivera à Ishmaël. Okay. Mais, je veux dire, si Abraham n'était pas devenu Abraham et n'avait pas engendré Isaac, on ne connaîtrait pas Abraham. On connaîtrait Ibrahim, le père d'Ishmaël. Okay. Un autre. Et alors. Là, et nous verrons d'ailleurs que l'objet de la querelle entre Ishmaël et Yitzhak est essentiellement la terre. Mais ce qu'on apprend, c'est ceci. C'est pas n'importe qui finalement a eu le mérite de préférer s'installer là pendant que les Juifs couraient ailleurs. Donc on a des problèmes avec eux. Et pour revenir à l'histoire de Ben-Ami, là c'est très très clair. Et le cheikh en question, qui connaît sa tradition et sa religion, n'a pas dit une blague. Okay. Et d'ailleurs, c'est dans la Gemara que quand Israël viendra retrouver sa terre, il faudra qu'il la paye à prix d'or. C'est clair. Donc, et il risque d'arriver, je vais pousser les choses à la limite. Quand il y aura la paix, s'il y a la paix, quand il y a la paix, il risque d'arriver une situation que je vais vous décrire. C'est qu'en fin de compte, les Juifs d'Israël seront beaucoup plus proches des Arabes d'Israël qui seront proches des Juifs de l'étranger. Parce que finalement, ils seront les hommes du même paysage. Vous comprenez ? Ça nous pend au nez, non, pas longtemps. Ouais, réfléchissez. Vous comprenez ce que je dis ? Non, je veux dire qu'il peut arriver un temps, quand il y aura la paix entre les Arabes et les Juifs en Israël, que les Juifs d'Israël seront beaucoup plus proches des Arabes d'Israël que des Juifs de l'étranger. C'est clair ? Et réciproquement, d'ailleurs. Bon, mais ça, c'est du futurisme anticipation. Quelle heure ben c'est l'heure. Bon. Alors, pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour dimanche, essayez de prendre un petit moment. D'ailleurs, vous avez Shabbat de libre. Okay. Oui. Essayez de prendre un petit moment pour préparer ces références-là. La promesse de la terre, la promesse du peuple et la promesse de la Torah. Moi, je vous ai donné la réponse.